Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'After. L'After est là, la 38e nuit de l'After, j'ai compté, depuis le début de la Coupe du Monde jusqu'à 2h du matin. Ce soir, l'After est sur RMC, l'After est également sur la chaîne YouTube de l'After Foot, bien sûr. Et l'After, même la nuit, la première radio de France, évidemment. Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis, et c'est l'avant-dernière donc.
Bah ouais.
Donc il y en aura 39 au total.
Il y en aura eu 39.
C'est ça, on est là, on sera là
c'est
demain.
C'est long hein.
On sera là demain pour la finale.
Florent Gautreau est là également, salut Florent.
Salut à tous. Salut
Jean-Louis Tour est au stade à Miami, salut Jean-Louis.
Je suis là, salut tout le monde.
Évidemment, on va analyser le match ensemble, France-Angleterre qui vient de se terminer, 32-16. On vous attend également sur le numéro WhatsApp 06-112-424-424. Les 3 points, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Je sais que Florent est plus efficace à 1h06 du matin que Daniel. Donc, tu commences.
Bah, ce match que personne ne voulait jouer était un match dingue et assez marrant à regarder. Il y aura pas mal de choses à dire quand même. Donc, je reviendrai d'ailleurs sur ce truc du personne ne voulait jouer, car à mon avis, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a au moins une dizaine de joueurs qui n'ont pas joué beaucoup dans cette Coupe du Monde, qui avaient envie de jouer à France-Angleterre et ça aura compté sur la compo.
Du coup, t'as pas besoin d'y revenir parce que tu l'as dit maintenant.
Bah, ça dépend parce que je vais dire lesquels. Et la compo de Deschamps, à mon avis, enfin, lui-même a été très trahi, mais sur la compo il y a des choses intéressantes à dire. Le deuxième point, bah, la honte de la première période quand même, et le truc qu'on a failli vivre pendant 90 minutes, j'ai eu peur d'un 7-0, donc la honte, il faudra y revenir aussi. Puis le troisième point, c'est quand même que quand cette deuxième mi-temps de dingue, il y a quand même des tauliers maintenant dans cette équipe, et je pense à Upamecano, qui est un mec incroyable, et quand il est entré, il n'est plus seulement un bon défenseur, ça a été un relanceur et un passeur, donc ce sera sur ces mecs-là que Zidane pourra s'appuyer, donc c'est aussi intéressant de regarder ça.
Daniel.
Ah, le premier point, c'est la folie de cette finale. Le
petite
point 2, c'est quand même
de
cette petite finale, pardon. Le point 2, c'est beaucoup d'interrogations au sujet du mental de cette équipe, parce que un match, ça dure 90 minutes, pas 45. Mental contre l'Espagne, on n'a pas trop compris. Là, ce soir, on n'a pas trop compris. Il va falloir se poser des questions sur certains joueurs. Et puis, le point 3, vivement quand même la grande finale, parce que c'était tellement n'importe quoi ce match que, bon, ça ressemblait pas non plus à grand chose quoi au final.
C'est la première fois depuis la deuxième, enfin faut remonter à avant la deuxième guerre mondiale pour trouver trace d'une équipe de France qui prend 6 buts.
Okay.
Alors, faut savoir que dans ces matchs-là, c'est quand même quoi, souvent.
T'en as rien à secouer.
Non, le match pour la troisième place, c'est souvent festival.
Voilà. Il y a eu 4-2, je me souviens une fois dans un match qui concernait la France, il y a souvent plus de buts, ce qui est logique.
58, il y a eu 6-3.
Oui, voilà. C'est ce qui est assez logique par rapport à
82-3-2.
France-Belgique de 86.
4-2. 4-2 après prolongation. J'ai les fiches là.
4-2. Ah, c'est 3-2 en.
Non. C'est 2-2.
Et combien c'est contre la Pologne en
82?
3-2.
La France
c'est
perd 3-2.
Il y a toujours 5 buts.
Et les buteurs, vous les avez de 82?
Ah,
Ferrari.
Je me demande si Girard n'est pas marqué.
Girard,
dans ce match. Oui, Girard avait marqué.
Et Alain Courriol. Celui-là, il fallait le trouver.
Ouais, Alain Courriol, il fallait le trouver.
Parce que Girard, il ne fallait pas le trouver. Un milieu de terrain, tu as le nombre de buts qu'il a fait en équipe de France.
Ouais, en plus. Alors qu'Alain Courriol était plutôt un joueur offensif. Bah,
c'est un attaquant, Courriol.
C'est
un attaquant, donc Courriol.
C'est un ailier, Courriol.
Ouais, c'est un ailier.
Bien sûr.
Mais pour revenir à ça, justement, pour revenir à cette petite finale qui effectivement ne rime à rien, la preuve, parce que c'est trop bizarre. Il y a des buts, le but de Bellingham à la fin, c'est un but de foot loisir, même si il est puissant. Les actions, les contres où l'Anglais se retrouve seul parce que les mecs défendent pas.
Le but de foot loisir, il y a eu le petit pont sur Zaïre Emery de Eze qui est un five.
Ouais.
Pont de
c'est un match foot loisir, c'était le Media Football Club.
C'était un match de
finale contre Socrates avec Jean-Louis dans les buts.
Après, en revanche, moi je reviens là-dessus parce que j'ai entendu ce truc et ce poncif qui, à mon avis, est hallucinant. Tourelle a dit après le match, après la demi-finale, il a dit personne n'a envie de jouer. Que tu le dises après la demi, oui, t'es titulaire dans la demi. T'as pas envie de te projeter sur la troisième place. Mais dire après 24 heures que personne n'a envie de jouer ce match, c'est faux. Je répète que tous les joueurs qui étaient sur le banc, qui ont eu 5 minutes par-ci par-là, les Lucas Hernandez, les N'Golo Kanté, les Risser, les autres, ils ont envie de jouer en France-Angleterre.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Juste pour finir là-dessus, je veux juste te dire que quand tu fais ta compo après, que tu veuilles compter sur des mecs importants comme Upamecano, ok, très bien, si tu le sens et si tu en as besoin, il faut le faire. Mais que tu ne vois pas que certains effectivement n'en ont pas envie
Et que tu alors que Konaté l'a dit en conférence de presse d'ailleurs, Flo.
Ouais.
Il a dit un truc de ce genre en disant je comprends pas qu'on dise les cuissons, c'est important le match pour la troisième place et tout, et qu'on mette pas la meilleure équipe. En gros, nous, on n'a pas compté sur nous depuis le début, et là, on va nous faire des reproches si ça se passe mal.
Alors là, c'est
et d'ailleurs, je pense qu'à la mi-temps, ça a été très chaud d'ailleurs.
C'est pas normal. C'est là qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que nous, on dise. Après la demi-finale, nous, observateurs, les supporters des Bleus, les journalistes, ce match n'a pas d'intérêt. C'est vrai, ça n'a aucun intérêt. Factuellement, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant,
même qu'un joueur, juste après je t'en ai parlé, qu'un joueur qui a joué cette demi dise, coach, je veux pas jouer à la troisième place.
Exactement.
Ok, moi
comme,
ça me choque pas.
Comme en 82, Platini et certains voilà. ont dit la déception était trop dure à digérer. Exactement. Après Séville, machin. Mais au contraire, ce match-là intéresse tout ton groupe.
Bien sûr.
Fait kiffer ceux qui n'ont pas pu jouer, donc c'est là que je ne suis pas d'accord avec la phrase de Konaté. Mais non, tu mets pas ta meilleure équipe, tu mets une équipe, et cette équipe-là, une fois qu'elle est sur le terrain,
qui a envie de courir.
Exactement. Et encore une fois, je le répète, que nous, même au coup d'envoi, même qu'on répète, ça ne nous intéresse pas, qu'on mange en même temps, qu'on fasse autre chose en même temps, qu'on soit. Ça, c'est normal, parce que sportivement, il n'a pas d'intérêt. Mais en revanche, ceux qui le jouent, et il faut faire tourner et faire jouer un maximum pour intéresser tout le monde, vous devez le jouer. Parce que c'est un match international, parce que vous portez le maillot bleu, et parce que si vous n'avez pas joué jusque-là, vous devez au moins envoyer un message sympa pour la suite.
Pour le coach,
de toute façon, vous avez.
Il y a plein de raisons.
Et même si ce n'est pas la meilleure équipe, bah, on ne va pas te reprocher de perdre. Mais en revanche, si l'état d'esprit était resté celui de la première mi-temps, ah mon Dieu, et d'ailleurs, on va pas s'empêcher de fracasser l'état d'esprit de la première période.
Et Konaté,
parce que ça, c'est pas normal.
Et Jean-Louis, ouais,
parce
Konaté,
que ça, c'est pas normal.
Konaté,
en revanche.
Jean-Louis Konaté, c'est intéressant. Parce que justement, tu as tout à fait raison de rappeler ce qu'il a dit, qui n'était pas de bon augure. Et Konaté, ouais. sur le terrain, n'a pas été bon. Et Konaté est en train de dégringoler, d'ailleurs, dans sa carrière en club et autres. D'ailleurs, le Real, là, ils ont pris Cucurella, mais ils ont pris aussi Konaté. Ils ont pris le top et le flop du mondial. Et ça, c'est important. C'est intéressant de regarder ça. C'est pour ça que.
Mais pour moi, sur la première période, d'ailleurs, Flo, il y a deux types de joueurs, en fait. Tu vois, t'as ceux qui en veulent à Deschamps, parce que je pense que cette première mi-temps met ça en lumière. C'est-à-dire que normalement, que les remplaçants en veuillent au sélectionneur, ça se voit pas autant parce que c'est pas le dernier match du sélectionneur. Or là, je pense que tout a explosé en se disant de toute façon, il est plus là. Et je pense que c'est le cas pour Cherki, c'est le cas pour Konaté. Ce genre de joueur-là que Deschamps a un peu perdu en ne leur donnant aucune ou très peu de considération. Je les défends pas, hein, mais je pense que c'est la situation
droit,
qui est comme ça.
Mais
je les défends
phrase,
pas. Attends, laisse-moi
si
finir, Jules Daniel.
Il n'y a pas de considération ou pas.
Non, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ces joueurs-là, d'ailleurs, sont sortis à la mi-temps. Et je pense que ça a été très chaud à la mi-temps.
Ouais.
Et l'autre truc, l'autre type de joueur qui explique le naufrage de la première période, c'est des joueurs juste pas au niveau quand tu les mets comme ça. Là, on a compris pourquoi Malo Gusto était le remplaçant. Pourquoi
Théo
Hernandez était le remplaçant.
Je dis depuis le début que je ne comprends pas pour la liste. Les deux seuls choix que je ne comprends pas dans la liste d'échange, je l'ai dit dans l'after, c'est les deux frères.
Oui,
je ne les comprends toujours pas. Lucas n'a même pas joué, Lucas, et Théo a été mauvais toute la compétition. Et il le remet pour le match. Moi, je pense qu'à la fois des joueurs ont trahi Deschamps, tu as raison, et à la fois Deschamps s'est trompé dans sa compo et dans sa connaissance du groupe, le fameux groupe qu'il a voulu créer. Et oui.
En termes d'erreur, ça fait
bien
deux fois. Demi-finale, plus ce match pour la troisième place. Et je maintiens que tu n'as pas le droit d'avoir l'attitude parce que, ok, quand tu amorces ce qui ressemblait à une sorte de remontada un peu folle, on a tous pensé à Roland.
Non,
si ça n'allait pas faire 5-4 et ça aurait pu vu la tournure que ça prenait, mais n'empêche qu'un match c'est 90 minutes et qu'au bout d'un moment tu n'arrives pas à effacer ça arrive une fois un exploit pareil, mais tu n'arrives pas parce qu'au bout d'un moment tu finis par t'ouvrir quand tu reviens, quand tu crois 4-1, 4-2, 4-3, déjà là on est dans la folie, mais tu sais que tu vas t'ouvrir et que tu risques de prendre un contre. Bon ben voilà, tu l'as pris avec le péno. C'est devenu plus compliqué.
Olivier a raté trois occasions.
Et au fond, en plus, t'as raté deux occasions. Donc, au fond, tu as pas pu l'effacer, cette première période catastrophique. Et c'est là qu'il faut qu'on se pose des questions sur l'état d'esprit global de cette équipe, de certains joueurs, ceux qui ont été titularisés, qui auraient dû se montrer. Et évidemment qu'on va devoir parler de Cherki, qui aura fait une Coupe du Monde. Je sais pas. Je veux pas trop l'enfoncer parce que probablement qu'il faudra s'appuyer sur lui dans le futur, mais il va falloir qu'il montre un autre état d'esprit parce que je sais pas. J'ai l'impression que ce gars-là s'est corrigé sur plein d'aspects. Un coup, il donne une interview où les phrases sont catastrophiques. Le lendemain, il est plein de lucidité. Le surlendemain, il est recatastrophique. Il rentre, il est pas bon. Il fait des gestes un peu inutiles. Il a toujours cette espèce de truc superflu. Là, le match, il démarre. Ben, il est pas bon. En plus, pour le faire jouer, on remet Olysée sur le côté. Bon, bref, il n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Un Malo Gusto prend la place. Toute la Coupe du Monde, j'ai entendu, Malo Gusto aurait dû jouer à la place de Koundé qui est une pompe à vélo. Bah, ok, donc au minimum, Malo Gusto, quand tu rentres, montre-moi quelque chose. Ça a été une passoire. Boulevard de son côté, du début à la fin. Du début à la fin. Parce que nous, alors, je sais pas, hein, peut-être que je fantasme sur le fait qu'il ait été mauvais pour ça. Que nous, que Flo, moi je l'ai pas beaucoup réclamé, mais Flo disait il faut faire jouer Malo Gusto. Bon, vu de l'extérieur, t'as le droit de le dire, tu sais le penser.
Quand
tu vois les performances de Koundé, très bien. Mais lui, au moment où on lui offre la possibilité de jouer, bah, montre de quoi t'es capable, mon grand, parce que là tu peux pas défendre aussi mal et tu peux pas être aussi mauvais. Donc viens pas me dire, parce que si en plus tu me dis ouais j'ai mal vécu, qu'on m'ait pas donné ma chance et tout, et c'est pour ça que, ah non, il y a pas de c'est pour ça. Même si t'as un tout petit bout, le tout petit bout qu'on t'offre montre que t'es fort, parce que là moi le prochain match j'ai envie de remettre Koundé, parce que là Malo Gusto c'est catastrophique. Zaïre Emery s'est un peu rattrapé sur la deuxième mi-temps, mais la première lui aussi, j'ai pas arrêté d'entendre il faut le faire jouer, sa première mi-temps elle est catastrophique. Bon, bah ça fait quand même beaucoup de monde, beaucoup de joueurs, parce qu'ils n'ont pas été que eux, les entrants. Mais des entrants, j'attendais autre chose.
Après,
ceux qui devaient se montrer. Ouais, après, toute l'équipe a été à chier en première période. Mais les entrants, fallait montrer, les gars.
Il y a différentes choses aussi. Quelque part, on ne pourra pas faire l'économie du débat. Alors, il y a la compo, les choix individuels et ces joueurs-là. Pour Cherki, je voulais juste revenir là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait de problème d'attitude en général. Moi, je pense qu'au contraire, il a eu la bonne attitude dans le groupe. C'était un peu la mascotte. Moi, je trouve que ce qu'il a dit plutôt était plutôt pas mal.
Attends, Flo, excuse-moi de te couper, Flo. Non, la relation avec Deschamps,
mais je parle pas de ça, je parle du groupe.
Ah, okay.
Non, tu sais, dans un groupe, dans un vestiaire.
Le coach.
Mais attends, c'est différent. Moi, des fois, dans des groupes, t'as des mecs, tu sais, qui se font un peu exclure parce qu'ils peuvent pas se faire leur place, parce qu'ils reprochent à tout le monde de pas être titulaire et donc ils le font ressentir. Cherki, c'est pas ça. Cherki, effectivement, il y a un problème de relation avec le sélectionneur. Tant mieux pour lui, le sélectionneur s'en va. Donc ça, c'est une chose. En revanche.
Vous avez vu qu'à la pause fraîcheur, d'ailleurs, ils se sont embrouillés sur la première pause fraîcheur en première mi-temps.
Et moi, en revanche, ce qui me gêne, je vais pas juger Cherki sur son attitude parce qu'a priori c'est un gars bien et dans le groupe ça se passe bien et il a un problème avec le coach, ça arrive.
Mais voilà. Cette espèce de dilettantisme,
ce qui me gêne,
il part dans les pressings tout seul.
Ce qui me gêne,
gestes inutiles.
Mais ce qui me gêne avec Cherki, c'est que il a pas été bon effectivement dans le jeu, il a jamais été bon.
Tu l'as fait
rentrer, il n'a pas été bon, il est titulaire, il est pas bon et effectivement là.
Et je sais même pas si dans le groupe, même auprès des joueurs, il est si apprécié que ça. Je pose la question.
Ah bon, je sais pas. Alors en tout cas moi je vais te dire en tant qu'observateur ce que j'entends de ce qu'il dit.
La fraîcheur
qu'il peut apporter, y compris là, je l'ai vu dans une vidéo qu'il a faite en partant à Miami, qui était dans le bon ton, je trouvais, par rapport à ce qui s'était passé, ce qui allait se passer.
Il y a trop eu pour un joueur qui est secondaire dans l'équipe, puisqu'il n'est pas titulaire, il vient d'arriver et tout. Entre eux, on y va là-bas pour marcher sur la gueule de tout le monde.
Oui.
Et puis le lendemain, avoir un discours un petit peu différent, où d'un coup il va redevenir un peu lucide. Et puis après, c'est lui qu'on envoie au feu suite à l'Espagne.
Ah oui, il y est allé quand même.
Non, mais c'est trop. Mais il n'y a pas de. Il est allé, c'est trop important, on n'a pas à laisser y aller.
Ah, d'accord,
on n'a pas à laisser y aller.
Okay, mais ça,
même
pas
lui,
ça
veut dire même qu'il aurait pu dire j'y vais pas.
Parce qu'après, il ne contrôle pas ce qu'il dit.
Ce
donc ça devient n'importe quoi.
C'est ce que je dis. Tout ça n'est pas de sa faute. En revanche, ce qui est de sa faute, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Et là, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Et ça, il ne faut pas croire que Zidane, parce qu'il aime bien ce profil de joueur, il aura un totem d'immunité. Je pense que ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde, dans ce qui s'est bien passé, mais aussi dans ce qui s'est mal passé, c'est important pour certains. C'est important pour le futur sélectionneur. Et à ce titre, des joueurs comme Konaté ont perdu énormément de points, évidemment. Des joueurs comme Cherki, pour l'instant, ils en ont perdu également. Après, il y a un autre point quand même.
Un Malo Gusto.
Un Malo Gusto aussi.
Malo Gusto, personnellement, mais même quand je le vois, il a fait quelques bons matchs, mais pour moi, il n'est pas au du panier.
Tout repart à zéro, en vérité.
Non, pas tout.
Quand t'as un nouveau sélectionneur,
on disait, t'as Mbappé, t'as ou pas Mécano. Je dis non, je t'ai dit l'inverse. J'ai fait un avis tranché il y a deux jours, j'ai fait un peu l'inverse.
À zéro. Moi, ce que je veux dire, c'est que t'as un nouveau sélectionneur. Tu sais pas comment il va jouer.
Non mais t'as des mecs,
ah,
des mecs,
t'as des bases.
Évidemment, tu vas prendre Mbappé et Olysée dans la liste, évidemment.
Tous
les seconds couteaux.
Peut-être pas la muraille qu'on a vendue depuis
tous
les années.
Tous les seconds couteaux dont vous parlez depuis tout à l'heure. Franchement,
non, eux, ça repart à zéro. Je suis d'accord avec toi. Mais ou pas Mécano, Saliba s'il est pas blessé, Mbappé, Olise et Dembélé, c'est dans le groupe à tous les coups. Maintenant, puis, savoir comment il va réussir à faire jouer devant tous ces mecs-là.
Attends, et je te rajoute Barcola Doué. Barcola Doué, parce que même si Doué a pas fait une bonne première mi-temps, c'est un joueur sur lequel tu vas compter. Barcola, il a su même montrer
que Doué, donc il est quand même, tu sais pas de quelle façon.
Il a pas rayé là, je veux dire Zidane, le voyant. Voilà. Après, il y a un point, je voulais revenir juste sur un truc en dehors des individualités.
Après, Jean-Louis nous racontera la cérémonie en cours. Je savais pas qu'il y avait une cérémonie des médailles.
C'est la médaille de bronze des Anglais.
Si tu fais une petite finale. Non. Au moins, ah oui, vaut mieux qu'il y ait une médaille, parce que sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Non, le point tactique, c'est que finalement, ce fameux jeu à, on va dire, à quatre offensifs avec deux milieux de terrain, que se traîne Deschamps, parce que moi, je pense tout simplement.
Mais ça, on reverra, ça ne peut pas marcher.
Non, parce que ce qu'on a dit depuis le début, finalement, est validé par la compète, et c'est logique. Quand tu arrives dans la fin avec les quatre meilleures équipes de la compète, et sans doute les quatre meilleures équipes tout court,
tu as pris trop de coups.
Et même sur la première période, il y a bien sûr un problème d'attitude. Mais tu te dis qu'en plus, dans un système où tu changes les joueurs, c'est-à-dire avec des joueurs qui ont moins l'habitude que ce que tu as travaillé un peu, on va dire, pendant la Coupe du Monde, ça marche pas. Et donc, c'était très simple. Ce système pouvait fonctionner contre des équipes plus faibles. Et dès que tu rencontres des équipes plus fortes, il fallait évidemment trouver une autre solution.
Pour avoir un milieu à 3, il va falloir choisir les joueurs et mettre un petit peu plus de technique quand même.
Donc Jean-Louis, médaille de bronze pour les Anglais. Hein. J'imagine qu'il ne va pas y avoir de lancer de papelitos là, comme c'est maintenant la coutume.
Là c'est bon déjà. On a même accordé trop de temps à ça. Donc ils récupèrent leur médaille et puis voilà, ils vont rentrer. Les Français, eux, sont rentrés assez vite. Hein. On a vu un Deschamps un peu ému forcément au moment de rentrer au vestiaire pour la dernière fois avec l'équipe de France. Mais sinon, oui, pour la cérémonie, on va s'arrêter là. Hein. Et tous les joueurs français ont même pas regardé les Anglais.
Ils sont même pas restés par politesse pour applaudir les Anglais.
Ils voulaient même pas venir à Miami.
C'est pas les Argentins qu'on fait ça, sinon on aurait averti l'ONU.
Non, mais quand même, Jean-Louis, je sais pas ce que t'en penses de ce que t'as vu de Deschamps et des scènes avec lui, mais c'est quand même.
Je voulais faire une pause.
Ah ouais, non, bah, on en parlera peut-être après. C'est une fin de tournoi un peu raté, sur le plan sportif.
On en parlera quelques instants.
Complètement raté.
Et juste après une courte pause, on écoute Kylian Mbappé.
Sorti raté de Deschamps, du coup.
Courte pause. Alors, c'est pas la finale de la Coupe du Monde, là. Hein, c'est très rapide. Donc, c'est pas des pauses pub de 17 minutes dans l'after. C'est quelques secondes. Et on revient. A tout de suite avec Kylian Mbappé au programme.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Il est 1h23 du matin, on est là jusqu'à 2h. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour qui est au stade à Miami. Écoutez Kylian Mbappé il y a quelques instants à la sortie du match.
Moi je dirais plus qu'on a été humain et que malheureusement nous on ne peut pas se permettre d'être humain. Je pense qu'on était complètement sonnés et je pense qu'ils nous ont bien réveillés. Après, en deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut niveau, des machines de mental qui font qu'on n'a on a plus de sentiments et donc on a réussi à faire ce qu'on fait, de gagner cette deuxième mi-temps, mais au final on ne gagne pas et je pense que c'est plus dommage pour le coach. On voulait faire quelque chose pour lui. Malheureusement la première mi-temps elle donne l'impression qu'on l'a laissé tomber et c'est pas du tout ce qu'on voulait faire ressentir. Mais c'est comme ça, c'est le football. Nous on veut remercier le coach pour tout ce qu'il a fait parce que ce match-là va pas entacher la légende de Didier Deschamps.
S'il y a un point positif, parce qu'il y en a quand même un, c'est que vous devenez le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde ce soir. Alors, en tout cas pour les prochaines 24 heures, puisque vous devancez de Léo Messi d'un but, donc on va attendre la finale demain. Mais ça vous fait quoi en termes d'émotion et en termes d'objectifs personnels? Parce que c'est incroyable ce que vous faites.
Non, je l'ai dit, Léo il marque tout le temps. Demain il va marquer, c'est sûr. Moi j'essaie juste d'aider mon équipe à chaque fois à marquer. C'est sûr que quand tu marques autant de buts en Coupe du Monde, ça te fait évoluer dans certaines sphères. Mais voilà, j'aurais aimé ne pas être le meilleur buteur de l'histoire et jouer demain le match. Donc je pense que c'est bien pour tout ce qui est héritage et quand on va arrêter de se dire que j'ai été un de ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, c'est pas la première chose qui traverse mon esprit.
Merci Kylian.
Moi, j'aime pas son excuse initiale. Parce que on est sonné.
Vous avez parlé de l'humilité de Mobout, comme l'appellent ses coéquipiers.
On est sonné, on est humain. Non, Kylian, je suis désolé, on n'en a rien à cirer de ça. Je voudrais quand même leur rappeler que ce qu'ont subi les Anglais en termes de défaite face à l'Argentine, c'est bien plus dur que ce qu'ont subi les Français. Les Français n'ont pas existé, ils se sont fait manger tout cru, terminé, au revoir. Les Anglais, ils ont perdu à la dernière minute, enfin, ils étaient même dans le temps additionnel, ils se sont fait retourner le match dans les 10 dernières minutes. S'il y a une équipe qui devait être sonnée, s'il y a une équipe qui devait être dégoûtée et avoir envie de rentrer au pays et se mettre la tête dans le sac, c'est l'Angleterre. qui n'y arrive jamais, qui se prend tout le temps dans la gueule des fins de match hallucinantes, qui a tout le temps cette impression d'être maudite. Alors eux ils sont arrivés, ils l'ont joué la première mi-temps et en plus ils l'ont joué avec une équipe B. Il y a plein de joueurs qui n'étaient pas là. Bellingham n'a pas démarré, Kane n'a pas joué.
Alors, ce qui est bien c'est que dans les équipes B quand même ils ont comme Elia, Rashford et Saka. Oui. Donc, ce qui est vrai que c'est pas mal.
Et Kylian arrive, il dit ouais on est humain et donc la première fois on était sonné et tout. Non, je suis désolé, l'excuse elle marche pas.
L'excuse elle vaut pas. Et j'en reviens.
Je pense qu'il fallait qu'il trouve un truc.
Non, je n'accepte pas. J'en reviens à cette gestion de l'émotion de l'entre-deux matchs que j'ai détesté cette phrase en disant. Ce matin, j'entends encore des journalistes dire non, vraiment, les Bleus ne veulent pas jouer ce match. Vous savez, bah, effectivement, on a vu que les Bleus ne voulaient pas jouer ce match, alors que je le répète, il y a plein de Bleus qui voulaient jouer ce match. Et si cette phrase était valable dans les 24 heures qu'on suivit la demi, là, dans ce cas-là, si t'es un staff normal, tu remets les mecs, même un peu, tu les secoues, comme vient de dire Daniel, en disant non, mais attendez, les gars, dans ce cas-là, dites-moi, mettez-vous à gauche ceux qui veulent absolument pas jouer, qui sont traumatisés, parce que maintenant, on va jouer au foot, il y a des mecs en face, il y a l'équipe d'Angleterre, il est hors de question qu'on prenne une danse.
Rappelons quand même que les joueurs ont essayé de gratter une soirée libre il y a deux jours en arrivant à Miami, et qu'il a fallu que Deschamps refuse en disant non, on a un vrai match de Coupe du Monde. Lui, pour le coup, il a essayé de droit dans ses bottes.
Je pense qu'il aurait dû l'accorder, la soirée libre, ça leur a pas fait de mal. Je pense qu'il aurait dû le faire. Maintenant.
Ah, après, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit, Daniel, si ça avait été le cas et si on avait appris que les Français avaient été à l'envers 48 heures avant.
Je pense qu'il fallait le faire et jouer le match après. Parce que je le répète encore une fois, que nous ne soyons pas intéressés par ce match, nous lui accordons une importance toute relative, que dans l'histoire du foot, la petite finale, on s'en cague. Ok, toi, t'es joueur, à partir du moment où tu joues, en plus, t'avais 2-3 motifs pour le jouer, t'avais les remplaçants à faire jouer, t'avais. Les adieux de Deschamps, mine de rien. Quand t'as vécu 14 ans avec un mec, t'as le droit de lui offrir une belle sortie et t'as surtout pas le droit de lui offrir une première période aussi catastrophique.
Daniel,
tu peux ne pas le faire.
Daniel, après t'as un truc aussi qui s'appelle le maillot. Je parle pas de l'équipe de France et du pays parce qu'il y a des gens qui en ont plein la bouche. Mais même un maillot en général, quand tu portes même en club, si tu ne te sens pas de jouer, tu ne joues pas. Moi, je trouve qu'il y a eu démission. Et je pense quand même que là, dans l'analyse du match et du groupe, ce match-là, il n'est finalement pas inintéressant. Et effectivement, il y a des gars qui ont montré après l'inverse. Je reprends l'exemple d'Upamecano parce que je trouve que dans l'impact à la fois défensif, dans l'impact de contre-attaquant, je l'ai regardé à un moment donné monter, je crois que c'était sur Bellingham, il était rendu à 80 mètres de son but en mode pressing comme dans un, on va dire, vrai match. Je pense qu'effectivement il a montré que même dans un match comme ça, tu dois à peu près jouer comme ça. Qu'il y ait quelques replis défensifs qui se fassent pas, on l'a vu un peu des deux côtés, pourquoi pas, mais tu peux pas faire ça. Et pour revenir à l'équipe d'Angleterre, certes une équipe en plus modifiée, mais effectivement ce qu'ils ont fait en première période, c'était pas non plus en termes de course, il n'y avait pas non plus c'était un pressing de dingo.
Ils ont profité de la passivité et de l'activité des Bleus. Hein.
C'était incroyablement faible du côté bleu parce que il y avait moyen.
Il y a 3 buts encaissés qui sont grotesques d'ailleurs.
Bien sûr.
C'était du beurre.
Le but où Rashford s'y reprend à deux fois avant de donner à Saka qui a du mal à mettre, c'est incroyable.
Où ils sont
ça, c'était foot loisir.
Tu l'aurais arrêté, toi. D'ailleurs, toi, tu serais peut-être pas resté comme Maignan qui, bizarrement, c'est bizarre comment il a deux fois il est allé devant le sans revenir.
Moi c'est pas Gilbert, ouais. Moi c'est pas Mignon que j'en veux sur cette action. C'est les trois joueurs qui restent autour, deux sur la
ligne
et Olise qui s'en fout complètement et ils ont le temps de frapper trois fois que ça remette dans les pieds.
Regarde Saka, il a donné de lui, il bouge pas pour aller sur lui, pour monter sur lui.
Ça c'est fin d'urban foot quand les mecs veulent arrêter de jouer et que les équipes ont été trop déséquilibrées.
Et Maignan, ok, on l'a pas beaucoup vu dans cette Coupe du Monde parce que avant l'Espagne, il a pas eu grand chose à faire. Mais il y a des vraies questions sur Maignan. Moi, je sais pas, ce gars-là, une espèce d'image de mur infranchissable, de grand gardien, machin, depuis quelques années, parce que sur pénaux, il est très bon.
Mais rappelle-toi qu'en début de saison, Deschamps était prêt à ouvrir la porte à une concurrence si Chevalier s'imposait au PSG. L'avantage qu'a eu Maignan, c'est qu'il n'y a pas eu de concurrence.
Je ne le trouve pas extraordinaire depuis pas mal de temps déjà, même avec Milan.
Ouais.
Et là, sur la Coupe du Monde, je ne le trouve pas dingue, Maignan. Mmh.
Ouais. Le vrai problème maintenant, c'est que
le Chevalier, s'il ne joue pas,
Chevalier est un peu disparu.
Non, mais le vrai problème de cette histoire-là du gardien, c'est Chevalier, parce que comme le dit Jean-Louis, c'était l'élu. Or, derrière, c'est un peu plus compliqué. Moi, je peux te dire que c'est pas Samba qui va vous faire oublier Maignan.
Non.
Et pour l'instant, Risser, je l'ai pas trop peu vu au très haut niveau pour te dire qu'il est capable d'être à ce niveau-là. Alors, il y a d'autres gardiens.
On va le voir en Ligue des Champions.
Mais malgré tout, c'est pas si simple que ça. Attention quand même, hein, dans le match d'aujourd'hui, je suis d'accord, moi, sur Maignan, il fait, depuis deux saisons, c'est plus compliqué. En revanche, ce soir, quand même, il y a quelques erreurs, mais il y a beaucoup de sauvetages.
Oui, hein. Il fait quelques
attention,
arrêts.
Attention, hein.
On nous a mis deux,
au milieu des buts, il en a sauvé. Et la frappe derrière le petit pont dont tu parlais, la frappe de Rashford, qui va chercher, là, qui était parti pour aller en lucarne, il va la chercher aussi. Donc bon, ça reste un bon gardien.
Allez, Mehdi, là, au 32-16. Mehdi, bonsoir.
Salut tout le monde.
Bon, tu relativises un peu le match parce qu'il n'avait pas d'enjeu ou t'es quand même énervé?
Alors oui, il n'avait pas d'enjeu, mais je suis énervé parce que ça reste l'équipe de France et même dans une rencontre, ça reste quand même une rencontre de Coupe du Monde. Mais franchement, le constat, il est triste parce que je rappelle quand même un peu la temporalité. Si je vais faire mes trois points comme vous, je rappelle quand même qu'après la Suisse et le fiasco, cette défaite en 8e, on était quand même nombreux, les Français, à vouloir que des départs, mais il avait cette légitimité d'être champion du monde en titre, et je pense que c'était normal à ce moment-là qu'il puisse aller au Qatar. Ensuite, je pense que Deschamps, c'est son ego qui a eu raison de lui. Je pense qu'il perd la finale au tir au but, il a du mal à partir comme ça, il est obsédé par la victoire, donc il prolonge grâce à son ami Le Gret. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il a vraiment tiré sur la corde et il aurait dû partir beaucoup plus tôt.
Et pour moi, il doit partir après la Suisse.
Oui, moi aussi. Mais l'ironie du sort, c'est que ce mec qui a fait un football défensif et restrictif, il finit par en prendre 6 sur son dernier match. C'est quand même assez drôle.
Et il sort finalement un peu de façon un peu triste. Alors factuellement, il n'y a rien à dire en termes de résultats. Bah, il va rester le plus grand sélectionneur de l'histoire du foot français. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais quand on fera des émissions, des hommages dans 10 ans, qu'on parlera de ça, il y a un truc et c'est là à chaque fois. Et c'était pourtant lui. Ces principes de dire il y a que le résultat qui compte, on se souvient que des vainqueurs, et nous on a toujours dit que le foot ça n'était pas que ça. Eh bien, le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus, de par les chiffres, ne sera pas le meilleur dans les cœurs. Pour les plus anciens, même comme nous, eh ben on préférera toujours Hidalgo. Pour d'autres gens, ce sera, j'en sais rien, Aimé Jacquet ou je ne sais qui. Mais Deschamps, il y aura toujours un problème. Ce gars-là qui veut se faire aimer depuis des années, qui voue un culte aux résultats, que ce soit par sa communication, par la façon dont il faisait jouer ses équipes, ce gars-là n'a pas réussi à se faire aimer. C'est fou, mais c'est comme ça.
Il y a quand même un truc, si tu prends la série qui était avant lui, ils sont encore en dessous.
Ah ben bien sûr,
parce que
largement.
Tu sors quand même de... Parce que Domenech, Blanc, Santini, enfin la succession des mecs qu'il y a eu récemment quand même.
Je vais pas te dire mieux. Je vais pas te dire mieux que c'est le plus grand de l'histoire du foot français. Je peux
mais
pas faire
Daniel,
meilleur.
Mais Daniel, sur ce que tu dis, je pense quand même qu'il faut faire une séparation entre gars-là. Le grand public et les fans de foot. Je pense que pour le grand public, il est quand même dans les cœurs la récurrence, etc. Par contre, dans les débats de spécialistes, je te rejoins. Oui.
Après sur Deschamps, j'ai
bien. Merci Mehdi au 32-16.
Ouais, merci Mehdi, salut à toi. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, le ressenti, ça a été assez posé. Mais sur Deschamps, moi je l'ai beaucoup critiqué et Daniel a raison, il ne restera pas forcément dans le cœur des spécialistes comme dit Jean-Louis. Mais il y a un truc très important et pour ça je lui serai infiniment reconnaissant, c'est que on a quitté la période 2010, même s'il y avait effectivement Blanc jusqu'à 2012, et que derrière il a remis un respect de toute la France pour
absolument.
Ce qu'est l'équipe de France.
Absolument. Ça, c'est vrai.
Et ça, je me suis posé cette question à froid, dans la journée, je me suis dit, mais qu'est-ce, parce que je l'ai beaucoup critiqué, on s'est ennuyé, j'en peux plus, là encore, je l'ai dit, il y a plein de choses qui me plaisaient pas, je voulais qu'il change les latéraux, je voulais, etc. Ok. Mais, quand je vois.
Tiens, il y a Adrien Rabiot qui est avec Arthur Perrault, on va l'écouter, les gars.
Bonsoir Adrien, merci beaucoup de prendre le temps de vous arrêter. Hier en conférence de presse, le sélectionneur parlait de devoir de briller sur cette petite finale. Comment vous expliquez ces attitudes presque totalement passives en première mi-temps de cette rencontre? Et est-ce que vous avez, pour certains, manqué à votre devoir?
Déjà c'est vrai que sur la première mi-temps, il a manqué d'envie, des grands discours depuis l'élimination pour fournir une première mi-temps comme ça, c'est... Sur la première mi-temps, c'est inadmissible des comportements qui doivent pas être vus, surtout quand on porte ce maillot. Et pour la suite, il y a eu un autre visage en seconde période. Bien sûr, on s'est repris avec pas mal de changements. Et le match est perdu, bien évidemment, mais je pense qu'il faut mettre l'accent surtout sur le coach. Je pense que c'est le moment de le célébrer, de reconnaître le travail qu'il a fait, qu'il a fourni à la tête de l'équipe de France, là où il a replacé cette équipe. L'envie qu'il a redonnée aux gens d'aimer aussi cette équipe. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir après ça, bien évidemment. Et on aurait aimé finir sur une victoire, mais voilà, surtout un grand hommage à notre coach parce qu'il a fait un grand boulot.
Plus que les changements à mi-temps, qu'est-ce qu'il s'est dit?
C'est assez étonnant parce que finalement il revient exactement. Il écoutait l'after. Ouais.
Non mais je suis content.
Là-dessus, c'est indéniable.
Je suis content qu'il le dise parce que je pense qu'effectivement, après avec un peu de calme, et vu que nous, en tant que journalistes, encore plus que d'autres, on a vécu très très fort ces moments 2010, mais même 2012, tu te souviens, avec les soucis qu'il y a eu dans l'équipe de France.
C'était blanc. Hein.
Ouais, c'était blanc. Mais peu importe. En gros, on était arrivé à un état où les gens se moquaient de cette équipe-là, où au moins on avait honte parfois dans les débats. Et tu es aujourd'hui avec une équipe où les gens sont fiers quand elle joue, où les gens ont envie de la soutenir, où il y a des débats effectivement sur le jeu, mais ça c'est notre rôle et c'est pas un problème. En revanche, d'avoir à ce point, on va dire, remis l'institution au centre du village, on va dire remis l'église au centre du village, remis l'institution debout, je trouve que là Deschamps y a participé, c'est propre, c'est carré,
en fait,
c'est net.
Tu sais quel a été finalement son problème, parce que tout ce que tu dis c'est vrai, et je répète que ça reste le plus grand histoire du foot français, c'est qu'en fait il a fini par être lassant. Il nous a lassés parce qu'il est resté trop longtemps. Alors oui, le rêve de sortir par la grande porte avec la victoire là, sauf que ça se gagne pas facilement une Coupe du Monde. Et là, je suis en désaccord avec tous ceux qui disent et qui l'enfoncent beaucoup trop et qui disent ouais, il en a gagné qu'une. Mais il en a gagné qu'une de quoi? Et les Allemands et les Italiens et les Brésiliens. Et en fait, qui a un meilleur palmarès que la France sur les 10-15 dernières années? Quand t'en gagnes une, c'est déjà beaucoup. C'est rare les grandes compétitions internationales. Et t'as de la concurrence. Donc ça, c'est un très mauvais procès qu'on lui fait. Parce que t'as gagné, t'as été finaliste, t'as été demi-finaliste, t'as été demi-finaliste de l'Euro. Les résultats, tu les as. Il y a pas de problème. C'est juste que c'est long. C'est long un mandat de 14 ans. Pour n'importe qui, pour un président à la tête d'un pays, pour un sélectionneur, à un moment, stop, tu finis par être lassant. Parce que t'avais un jeu qui a toujours été plutôt ennuyeux, t'étais restrictif.
Ça vaut pour nous trois, on est là depuis 20 ans, les mecs.
Mais nous, on fait pas le même métier.
Vous renouvelez beaucoup mieux, ça n'a rien à voir.
Nous, on fait pas le même métier. Nous,
vous vous renouvelez mieux. Non, mais Daniel, sur le bilan, je pense qu'il y a deux trucs qu'il faut prendre en compte. Moi, je suis d'accord avec toi, dire il a gagné qu'une fois, comme si on pouvait gagner tous les deux ans.
Ça, c'est un argument stupide.
Ça, j'aime pas non plus. Par contre, ce qu'il faut dire sur Deschamps, c'est que les deux fois où il aurait pu faire le virage du jeu offensif, c'est-à-dire Euro 2021 avec le trio Mbappé, Griezmann, Benzema,
oui,
et là avec les quatre attaquants,
il
a jamais réussi. Ça, il a jamais réussi. Quand la France était attendue comme favori et qu'elle se reposait sur le jeu offensif, ça n'a pas marché. Donc ça va malheureusement
parce que ça, il sait pas
lui
faire
coller
ça
à la
pour
peau.
Le coup, on peut le dire, il ne sait pas
exactement.
Faire.
Mais dans l'autre sens, il y a aussi ces matchs-là où on perd. Où il y a une espèce d'alerte enlèvement totale sur l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre les matchs précédents et ce match-là où on se fait éliminer. Et il y en a eu plusieurs. Hein. L'Espagne les deux fois, l'Argentine,
la vérité,
le Portugal
c'est que dans
en 2016.
Monde, t'as joué deux équipes qui sont dans le gratin mondial et t'as pris deux roustes. Hein. Jean-Louis, t'as joué deux équipes du gratin mondial, t'as pris deux roustes.
D'ailleurs, on en revient quand même
et ensuite, on écoute
à la formule de cette Coupe du Monde. Ça délaye tellement qu'avant de rencontrer le top... avant, tu mettais moins de temps avant de le rencontrer, puisque la compète était plus resserrée. Là, tu as eu du temps, des matchs contre des adversaires plus faibles. J'en veux d'ailleurs au Maroc, c'est pour ça que je l'avais dit à l'époque, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur, donc ils n'ont même pas proposé l'adversité qu'on pouvait espérer du Maroc par rapport à leur début de compète. Donc tu as dû attendre la demi pour tomber contre une équipe injouable, enfin potentiellement injouable, pour t'apercevoir qu'effectivement, quand tu es dans le dernier carré, en gros, oui, tu n'as pas le niveau. Et c'est dur.
Allez, dans un instant, on va écouter Didier Deschamps, les gars, on fait une dernière pause et ensuite on l'écoute sa réaction.
Et j'ai Samuel Umtiti qui s'installe à côté de moi, Gilbert.
Et parfait. Et comme ça, on va l'accueillir aussi dans quelques secondes. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 1h40 du matin. On est là avec Daniel Riello, avec Florent Gautreau, avec Jean-Louis Tour qui est au stade à Miami, avec Samuel Umtiti qui peut-être nous a rejoint.
Oui,
salut à tous. Samuel. On va écouter Didier Deschamps, les gars, ça dure 2 minutes. Et après, on prendra bien sûr l'avis de Samuel sur ce qu'a dit le sélectionneur.
Didier, ce soir, on perd. On perd parce que la première période n'a pas été bonne du tout. La deuxième, voilà, catastrophique, on est d'accord. Et la deuxième, on a retrouvé l'ADN des Bleus. Et j'ai envie de dire que finalement, c'est ce qu'on a envie de retenir, en tout cas, cette patte-là, cet ADN-là, cet esprit de la gagne que vous avez réussi à instaurer dans l'équipe de France. Et c'est pour ça que Kylian Mbappé vient de vous remercier à l'instant. Vous n'avez pas entendu ces mots, mais c'était très touchant. Qu'est-ce que vous retenez de, pas de toute la compétition parce que ce serait trop long, mais de ce scénario ce soir et de tout le paradoxe qu'on a vu et auquel on a assisté?
Et bon, évidemment c'est une défaite, mais quand on est mené 4-0, on fait une première mi-temps impresentable. Il y a eu réaction forcément avec ce qu'on a su bien faire, évidemment. Bon, allez, on a deux occasions de faire égaliser à 4-4. Après, bon, on se projette un peu plus, mais là, c'est ce qu'on sait faire. Malheureusement, on ne l'a pas fait, mais c'est de ma faute parce que je n'ai pas dû faire ce qu'il faut en première mi-temps aussi. Mais bon, au moins, ça ressemble à quelque chose, même si la défaite a fait mal. Évidemment, c'était mieux de finir troisième. On est parti avec beaucoup d'ambition. On a réussi à faire pas mal de choses positives. On a raté notre match contre l'Espagne et elle a su être très performante contre nous. Voilà, il n'y a pas tout à jeter, bien évidemment. Il y a un groupe vraiment, vraiment à qualité footballistique. Il y a pas mal de jeunes qui passeront encore les échelons. Mais il y a vraiment matériel pour continuer à avoir de très, très bons résultats. Et sur le plan humain, ça a été vraiment une très très belle aventure avec eux, parce que les 8 semaines depuis le début de la préparation que nous avons passé ensemble, c'était beau. C'est ça aussi. La déception, elle est là, évidemment, sur le sportif. Mais je pense qu'on a eu aussi l'opportunité de fabriquer des émotions, et qu'il y a des millions de Français, des dizaines de millions de Français, grâce à vous, M6, qui a pu partager ses émotions. Évidemment, avec de la déception, elle y est chez nous aussi. Mais voilà, c'est ça, c'est la Coupe du Monde, donc c'est merveilleux, il n'y a rien de plus beau.
La déception est forcément très forte, Didier, c'est pour ça qu'il y a autant de réactions, mais vous n'avez pas à rougir de ce qui s'est passé, le parcours est incroyable, on voulait vous remercier pour ça, parce que sincèrement, les Bleus nous font rêver, et encore ce soir, on a eu du spectacle, malgré la défaite. Merci pour tout ce que vous avez fait, Didier, vraiment.
C'est gentil, c'est gentil. J'entends beaucoup de merci. Et moi aussi, je remercie beaucoup de personnes parce que je ne suis pas seul. J'ai un staff avec moi, avec de la compétence. Voilà, et puis après, c'est des choix de joueurs, des choix humains aussi. Et puis avec toujours cette envie, cette volonté d'aller le plus haut possible, maintenir l'équipe de France tout en haut. Parce que, je le répète, pour moi, il n'y a rien que de plus beau dans la vie d'un footballeur que de porter ce maillot. Dans la vie professionnelle, bien évidemment. Donc, voilà. Je l'ai porté 25 ans. Donc, ça va.
Merci, Didier.
Voilà, Didier Deschamps. Bon, Samuel.
Il est ému. Il faut respecter son émotion. Oui. Le mec, il a passé 14 ans à la tête des Bleus. Avec les succès qu'on connaît, on peut respecter ça. Bon, il termine comme ça. Il se plante sur les deux derniers matchs. Bon, ça, c'est à la limite, ça restera un détail. Il faudra retenir ses résultats, parce que mine de rien, on ne peut retenir que ça de lui. Le reste, c'est compliqué.
Samuel est avec nous, profitons de sa présence. Samuel, tu retiens quoi de cette soirée là? Le record de Mbappé, la première mi-temps catastrophique, les adieux de Deschamps, il y a pas mal de choses, mine de rien.
Ouais, mais après, moi je me focus plus sur le collectif en pas bien aussi, parce que la première mi-temps, c'est catastrophique. Sur ce qu'ils ont montré.
T'as une explication à ça,
c'est largesse. Bah, il y a tellement de choses, je pense. Je sais pas si j'aurai la vérité, mais on sait qu'ils ont été touchés par cette défaite en demi-finale. Ok, c'est une chose, mais ensuite.
Ouais, mais les Anglais aussi ont perdu en demi. Hein.
Oui, oui, et c'est pour ça que je dis bien les deux équipes, mais tu dois switcher. Et que bah pour moi, c'est pas normal d'avoir cet état d'esprit-là, ces attitudes-là. Bah c'est impossible. C'est impossible. Donc moi, c'est facile de le dire comme ça, je suis plus sur le terrain, mais j'ai du mal à comprendre vraiment, et il faut peut-être leur demander, mais j'ai du mal à comprendre ça, de voir ce visage-là de ces joueurs. On avait l'habitude de voir une équipe bien structurée, et là non, rien à voir, c'était tout l'inverse. Et ensuite la deuxième mi-temps avec les changements, où tu vois une toute autre équipe, et ce qu'ils sont capables de faire dans des petits espaces, jouer des combinaisons à une, deux touches rapides, des appels de balles, bah pour moi c'est ça l'équipe de France, ou en tout cas ces joueurs, ils sont capables de montrer ça. Et ils ont attendu cette deuxième mi-temps, c'est, pour moi c'était tard, même si il y a eu cette balle de 4-4 qui aurait pu tout changer. mais je retiens cette première mi-temps catastrophique. C'est on va dire 25-30 minutes en deuxième période où ça a été mieux et ils nous ont fait vibrer. En tout cas, moi, j'ai aimé les voir comme ça. Et après, les adieux de Didier Deschamps, pour moi, avec beaucoup d'émotion, parce qu'il a donné, on va dire, en tout cas, et à moi particulièrement, une Coupe du Monde, et c'était exceptionnel de vivre ça à ses côtés. Et après il a fait tellement de belles choses. Il a pris cette équipe de France qui allait pas forcément bien et il l'a ramené sur le toit du monde et il a réussi à la garder quand même parmi les meilleures équipes du monde. Et ça, c'est pas facile de le faire, même si on peut dire que oui, il avait les meilleurs joueurs au monde, ok, oui, mais quand même je tiens à le féliciter sur ce qu'il a réussi à faire avec ses joueurs, avec ses équipes, et peut partir, je pense, sereinement, même si on attendait par exemple une victoire là, en tout cas une finale et encore une Coupe du Monde. Mais on peut que le remercier par rapport à ce qu'il a fait.
Bon, j'aimerais qu'on parle quand même de Mbappé quelques instants, les gars. Alors, il y a ce fameux record là. Alors, on verra ce que fait Messi demain. Mais pour l'instant, c'est à l'heure où on parle ce soir, Mbappé, meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde, avec 22 buts désormais. Il a quand même, il marque 10 buts sur cette édition. C'est quand même assez fou. Hein, il a 10 buts sur une Coupe du Monde.
Et il peut refaire une Coupe du Monde.
Et il peut en refaire une.
Ce qui n'est pas forcément le cas de Messi.
Parce que voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir, Sam, de la Coupe du Monde de Mbappé?
C'est exceptionnel, c'est pour moi sa compétition et il arrive à marquer en phase de groupe, de poule, et on va dire que peut-être c'est facile, mais après sur des matchs élimination directe, il arrive à être aussi là décisif, même s'il l'a pas été face à l'Espagne, mais il a quasiment marqué à tous les matchs, était décisif à tous les matchs, et c'est exceptionnel ce qu'il fait. On a la chance de l'avoir avec nous. Il a cette mentalité pour moi de tueur lors de ces compétitions là, et c'est formidable. Il lui reste, je pense, il pourra encore faire une Coupe du Monde minimum, et d'avoir ces stats là, c'est formidable. Même si je reste quand même, il faut quand même rester concentré sur le collectif, et il a montré aussi attitude et de leadership. Il a accompagné ses coéquipiers,
oui, sur ces matchs-là. C'est devenu un daron.
Exactement,
quoi.
C'est devenu, ouais, si on peut dire ça, c'est devenu un daron qui dit à ses petits, suivez-moi, je vais vous emmener à la victoire. Donc c'est très bien. Il les a accompagnés, et ces attitudes-là, on a envie de les voir encore et encore sur les prochaines compétitions qu'il aura en tout cas la chance de faire.
Malgré tout, il faudra quand même à un moment, puisqu'on a cru dans cette compétition au début qu'il y avait peut-être une nouvelle formule pour l'entourer. Ça n'a pas fonctionné. Lui, il fonctionne individuellement, il n'y a pas de problème. Que ce soit le leader de cette équipe, oui. Que Zidane s'appuiera sur lui, oui. Il est le capitaine. À tous les matchs, il peut marquer. Il a un talent hors norme. Mais il va se poser encore une fois la question, et c'est souvent la question avec lui, comment tu joues comment tu construis un collectif
avec lui. Va être la première question qu'on va poser à Zidane.
Oui, donc on a vu que à 4, ça va pas coller. Donc il faudra construire un milieu de terrain, une attaque, sachant que tu as un Dembélé qui en club ne joue pas sur le côté, et Dembélé n'est plus un joueur de côté maintenant. Donc il faudra réfléchir à ça. Il faudra savoir par qui il sera entouré, comment l'équipe évoluera, parce que savoir que tu as un attaquant, ok, tu l'as, c'est Mbappé, mais qui a un neuf quand même un petit peu bizarre, parce que c'est pas non plus un neuf qui traîne dans la surface, qui va reprendre un centre de la tête, ça il fait pas. C'est un neuf qui décroche, ça il peut marquer, il peut faire des passes, je l'ai vu orienter, c'est lui qui fait la passe à Barcola, pas de problème. Sauf quand même, je pense que si tu veux gagner une grande compétition, il va falloir que le collectif soit beaucoup plus huilé, et ça passera par comment on joue avec Mbappé. Parce que le fait qu'il mette sa collection de buts, c'est très bien pour les records, mais ça fera pas gagner l'équipe. Ça reste un vrai problème à résoudre pour le sélectionneur et pour Mbappé. Et ça va être le problème à résoudre pour Mourinho au Real. Parce que si, soit il y a un grand ménage au Real, mais là au Real, si on me dit qu'Olysée veut tout faire pour y aller, que Bellingham reste, que Vinicius reste, c'est pas possible. C'est pas possible.
Il faut un collectif fort comme.
Donc, mais oui, mais il va falloir le construire pour le faire briller.
Ah oui, bien sûr, comme le fait, j'ai envie de dire, l'Espagne, qui joue pas forcément avec un neuf pur. Et au final, tu vois leur collectif, et c'est pour moi, c'est le football actuel, c'est que comme ça que tu peux gagner. C'est pas forcément avoir une individualité qui arrive à te marquer 50 buts dans
donc
une saison. C'est pas ça.
Donc, oui, il va falloir trouver le bon moyen de jouer avec lui.
C'est le coach, c'est le rôle du coach de trouver, on va dire, la bonne combinaison pour qui va s'associer à qui devant, et après au milieu de terrain, s'il va jouer avec comme le faisait là Deschamps avec deux milieux de terrain, ou passer à trois. Mais il va falloir trouver le système idéal pour que tout le monde arrive à
Être le problème pour Mourinho au Real et celui de Zidane après.
Mais après, il y aura des choix à faire, bien évidemment. Comme au Real, il y aura des choix à faire pour Mourinho. Et en équipe de France aussi, il y aura des choix à faire pour trouver la bonne solution, la bonne recette pour gagner.
Moi déjà pour revenir à la première question, effectivement cette Coupe du Monde elle est assez impressionnante et honnêtement je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là d'efficacité, de leadership, pourquoi pas, parce qu'il avait déjà switché sur ce côté capitaine, sur ce côté même collectif et un peu plus défenseur parfois, enfin il a fait des choses qu'il ne faisait pas avant, mais l'efficacité elle est redoutable même dans ce match-là, là où les autres tâtonnent et ratent comme Olise, lui il a été clinique sur ses deux frappes, donc cette efficacité-là, elle est presque plus grande qu'à une époque, même si sur d'autres registres, évidemment, son jeu a changé.
Mais en tout cas, que tu le mettes, lui,
impressionnant.
Que ce soit Real ou une équipe de France, moi je le mets. Boum.
Ouais, mais
autour, alors, il faut faire des choix forts. Il faut la construire,
dis,
l'équipe.
Ouais, hein. Par rapport à ce que tu dis, il y a quand même un peu plus que ça. Tu as évidemment toi Mbappé qui est très fort. Tu as évidemment des questions qui vont se poser, oui. Mais tu as un truc nouveau quand même, c'est Olise. Olise, tu ne l'avais pas. Donc tu as quand même Olise, le passeur, la relation qu'il y a encore aujourd'hui sur la passe d'Olise vers Mbappé.
Où tu le
d'accord,
mets.
D'accord, mais
Olise, tu sais pas où tu le mets.
Sauf qu'à une époque, tu n'y avais pas une évidence, puisqu'on était encore sur des débats il y a 6-7 mois. Est-ce que ce sera plus Olise, Cherki? Non, Olise, il a pris la place quand il est dans l'axe derrière. Derrière.
Tu vas le faire jouer où?
Non, mais derrière. Là, par exemple.
Dans l'équipe de France, tu penses que Zidane le fera jouer là?
Non, mais je demande moi, à je voir. Te dis, ça, non, en tout cas, non, mais en tout cas, dans l'évolution du débat, c'est très nouveau. C'est-à-dire que à une époque, tu pouvais tout imaginer. Là, tu as quand même une question, on va dire un point positif, c'est que tu sais que tu as un joueur qui a un talent fou, qui est Olise, qui, attention, rate des mi-temps entières aussi. Il faudra
et qui a un problème de finition quand même, parce que.
Olise, excuse-moi.
Mais, il a vraiment mangé comme il faut.
Le bilan de la Coupe
et
du Monde.
Il met zéro but. Hein.
Enfin, ouais, le bilan de la Coupe du Monde ne sera pas si, clair que ça.
Mais il est meilleur passeur de la Coupe du Monde pour l'instant.
Pour moi, ce ne sera pas si clair.
Attention quand même, parce qu'on est monté tellement vite et tellement fort. On s'est tellement enflammé sur les bleus que maintenant, on va finir par dire que Olise fait une mauvaise Coupe du Monde.
Je ne te dis pas qu'elle est mauvaise.
Moi, je
dis qu'elle n'est pas aussi nette que ça.
Je dis qu'il rate, et ça lui est arrivé, on s'en souvient contre. On s'en souvient que le Bayern contre le PSG, il avait raté un match complet. Il avait fait un magnifique et un raté. Il faudra se souvenir déjà un de ça, mais ça, c'est aussi et un joueur qui progresse.
Surtout sa position me pose question.
La position pose question, mais en tout cas, c'est une solution. C'est un truc qu'on n'avait pas. C'est une relation entre un passeur et un buteur.
Attends,
juste un point pour finir. Après, c'est la vraie question pour moi. Elle n'est pas tant sur Olise et Mbappé. Elle est surtout et sur les autres là, Edoué, Barcola, j'ai pas de souci. Elle est sur Dembélé. Pour moi, la vraie question compliquée pour un sélectionneur, c'est Dembélé. Les autres, ils peuvent être bons dans certaines situations. Olise, là, il a remis à droite pour laisser de la place à Cherki. Ça n'a pas été compliqué. Il l'a remis dans l'axe derrière Mbappé dans la deuxième période. En revanche, Dembélé en équipe de France et avant qu'il mette ce but, il a encore raté. Ça peut être un sacrifié parce que Dembélé, maintenant qu'il n'est plus dans son poste de prédilection, eh ben il n'est pas performant. Il n'est plus
assez performant. Samuel, Jean-Louis sur Olise, qu'est-ce que vous voulez dire?
Moi je pense que c'est un joueur qu'il faudra utiliser. Encore une fois, on a la chance d'avoir un joueur de cette qualité là. Il peut jouer à droite comme il le fait au Bayern et il a été très 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 performant, mais il peut aussi jouer derrière Kylian. Il a la capacité de jouer pour moi toutes les positions
de sélection, il peut pas.
C'est ton avis. Moi je pense qu'il est capable de le faire.
Non, parce qu'après il se retrouve qu'à deux au milieu, c'est fini, t'es mangé.
Ok, mais Ousmane, par exemple, si vous parlez aussi d'Ousmane, il est capable aussi. Pour moi, Ousmane, il peut jouer sur un côté, mais sur un côté, ça veut pas dire que tu manges la ligne. Parce que Ousmane, quand tu le fais, tu le rapproches de la surface, il peut être performant, il peut être décisif.
Donc toi, l'équipe, tu la touches pas. Cette équipe, c'est pas question que je la touche pas. Devant, tu dis que ça peut marcher.
C'est que je peux la toucher, mais je peux la laisser comme ça. Mais demander autre chose à Ousmane que de rester sur sa ligne, il peut rentrer dans l'axe.
Il est vrai, Samuel, que tu peux imaginer un 4-3-3 où il y a un sacrifié et où tu mets Olise côté droit avec un Doué ou Barcola à gauche.
Mais
et
tu peux aussi laisser un Ousmane sur un. Tu peux aussi laisser un Ousmane, mais pour moi, de lui demander de se réaxer un peu plus, avoir des ballons un peu plus dans l'axe proche de la surface de réparation et d'arrêter de le laisser sur un côté. Parce que sur un côté, oui, il apporte pas autant qu'avant, mais quand tu le rapproches de la surface de réparation, il est capable de faire des passes décisives, il est capable de marquer, que ça soit pied droit, pied gauche, il est capable. Donc, c'est juste lui demander l'animation, de trouver une animation.
Je comprends pas trop ce que vous dites, mine de rien. Parce que moi, j'arrive pas tellement à comprendre ce que ça va donner au milieu de terrain si Dembélé joue avec Olise, avec Mbappé, plus un autre mec. T'as deux milieux de terrain qui, en plus, sont pas des as techniquement. Moi, je vois pas trop.
Bon, bah, j'ai du mal à comprendre. Ouais.
Et sur Dembélé, Sam, là, tu entends Flo qui dit que ça peut être le sacrifié de,
bah, comme,
de la nouvelle
ère. Comme tous, au final, moi, ça va être vraiment sur leur état de forme, sur ce qu'ils vont faire et surtout la philosophie du nouvel entraîneur quand il va arriver, ce qu'il va demander. Et au final, s'il demande certaines choses et que Ousmane lui donne, Ousmane va jouer. Et s'il arrive et qu'il demande certaines choses et que Ousmane ne lui donne pas, bah il va peut-être aller chercher ça sur un autre joueur. Mais c'est pas obligatoirement Ousmane qui va être sacrifié. Moi, ça va vraiment dépendre de ce que Zinedine, en tout cas Zidane, va demander à ses joueurs offensifs. Ça soit peut-être les 4 ou peut-être il va jouer à 3, mais sur leur position, et lui, c'est à lui de trouver aussi la meilleure manière de rendre un Ousmane
bon,
performant.
T'as raison, mais avant tout, et connaissant Zidane et ce qu'il a eu au Real, et
connaissant qu'il connaît ce qui va arriver, on sait déjà ce qu'il va faire.
Non,
je suis pas d'accord avec ça.
La question que je me pose, c'est que je pense que lui va vouloir quand même faire un meilleur milieu de terrain. C'est-à-dire que là, on saute une marche. On se dit, comment on fait pour utiliser Ousmane? Ok, mais d'abord, quel milieu de terrain va vouloir Zidane? C'est ça qui m'intéresse, moi, de ce que je veux savoir. Parce que je parlais l'autre jour, je pense pas qu'il le fera, mais j'évoquais l'idée, l'hypothèse, tu sais, d'un Doué que tu peux reculer, que tu mets dans un milieu parce qu'on manque de technique et que Doué peut être aussi reculé dans un milieu parce que je le rappelle, à chaque fois, il a 4 postes à son actif et il est capable de jouer partout. C'était pour dire qu'en tout cas, Zidane aura sans doute besoin d'un meilleur milieu de terrain. À la fois en quantité peut-être, mais surtout en qualité. Et de ça dépendront ses choix pour l'attaque. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je le prendrai, parce que c'est vrai que on peut tout imaginer devant, mais la réalité de cette Coupe du Monde, c'est qu'on a été trop faible au milieu de terrain, trop peu nombreux parfois. Je parle contre les grosses équipes, hein, l'Angleterre et l'Espagne notamment à la fin, et que à mon avis, la clé du problème, elle se situe au milieu.
Et la créativité, parce qu'au final, tu dis ça, ok, tu veux un milieu de terrain en plus, d'accord. Mais tu vas avoir des milieux de terrain qui soient créatifs, parce que là, les milieux de terrain dont tu me parles, c'est pas du tout ça qu'on attend d'eux. C'est pas du tout ça. Donc au final, la création, ça va être qui? Ça va être sur les côtés seulement. Là, c'est possible, hein, je dis pas que c'est impossible. C'est totalement possible. Mais là, on a la chance d'avoir des joueurs qui peuvent être bons au cœur du jeu. Et même si là ils ont loupé leur performance, en tout cas face à l'Espagne, moi je pense que techniquement ils sont capables d'être bons. En tout cas, un Michael Olise, il est capable aussi d'être bon en tant que numéro 10. Il peut avoir Ryan ou une autre personne, mais de rajouter un milieu, pour moi, on peut aussi se dire, bah, la créativité, tu vas l'avoir où? Ok, ils vont récupérer des ballons, mais après, ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être que les 3 devant, ou en tout cas les 2 ailiers? Il y a plein de questions qu'on peut se poser, c'est pour ça que on verra exactement, on verra.
En tout cas, la tendance, c'est qu'apparemment, il veut un vrai 10, Zidane, on verra. C'est fini pour ce soir. Qui va à la finale demain, là? Samuel et Jean-Louis ou...
Moi, j'y vais.
Ah, moi, je prends mon vol pour rentrer à Paris.
Coupe du monde finie pour.
C'est ça, pour Coupe du monde finie.
Bonne finale, Jean-Louis,
merci,
à demain.
Merci, à demain.
T'as brillé de mille feux, Samuel, t'étais bon.
j'ai essayé en tout cas.
Et à très vite, bien sûr, Jean-Louis, à demain pour la finale.
À demain.
Florent, Daniel, pareil. Bien sûr, demain, la dernière nuit de l'after de la Coupe du Monde. Après la finale, Argentine-Espagne. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.